un sujet un peu maudit, l'obéissance.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que le sujet de l'obéissance est un gros problème dans notre société? C'est parce qu'on a eu un système totalitaire, religieux. Moi, je me rappelle, étant enfant, on était obligé d'aller à confesse toutes les semaines. Puis après, c'était tous les mois. Puis on devait aller à la messe, et puis etc., etc. Et on n'échappait pas au regard du prêtre, du baron dans le village, de l'instituteur. Il y avait un pouvoir sur les consciences, et ils savaient à peu près tout ce qui se passait chez chacun, dans leur maison. Et dans leur foyer, même dans leur lit parfois. Et pratiquement dans leur politique aussi, dans les options, dans les choix que les gens faisaient. Et si on dérogeait à leur pensée, eh bien on était quasiment classé comme ennemi. Je vais vous donner un exemple de désobéissance qui a amené un immense problème. Dans un village ici à côté, il y a de ça plus d'un siècle, un monsieur n'a pas voulu être enterré à l'église. Il n'a pas voulu être enterré à l'église, et il y avait dans ce village une seule harmonie où tout le monde allait jouer. Et donc, comme il n'a pas voulu être enterré à l'église, certains musiciens de l'harmonie ont dit on va aller jouer un morceau de musique au cimetière pour lui. Puis c'était quand même notre copain. Et le curé, lui, a prêché à l'église, à la chaire, parce qu'il montait des escaliers, il mettait dans une chaire, que celui qui refusait d'être enterré à l'église était un ami du diable. Et que ceux qui allaient jouer cette musique-là pour ce bonhomme-là étaient avec le diable. Et le prêtre a divisé le village avec ça. Bien sûr qu'on sait bien que le péché divise. Mais quand on est au service de Dieu, on peut mettre de l'essence sur le feu ou faire le contraire. Être un homme de paix, Jésus l'a dit, heureux les artisans de paix, car ils verront Dieu. Bon, ça n'a pas été le cas de ce prêtre, et qui a désobéi donc à un des commandements évangéliques, et il a paréché comme ça. Il a teasé, il s'est fait deux clans. Le clan de ceux qui tenaient avec le prêtre et de ceux qui s'insurgeaient, qui ne refusaient des condamnations pareilles. Et il y avait énormément, bien sûr, d'ouvriers qui partaient à pied, à vélo, surtout à pied, travaillaient à tout ça. Moi, mon grand-père de mon village ici partait à pied jusqu'à tous les jours, et parfois dormait dans la mine. Et pratiquement, il arrivait que la femme ou un des enfants porte à manger dans la mine, à l'entrée de la mine, au papa, parce qu'il ne revenait pas, parce qu'on ne travaillait pas à 6 heures, c'était 12, 14 heures, pour des salaires de misère. Et il partait déjà à 3, 4 heures du matin, chez mon grand-père qui était là, paternel, il y avait sur la fenêtre des petits verres de gouttes, pour tous ceux qui partaient déjà 3-4 heures du matin et qui allaient marcher jusqu'aux mines, à l'usine. Et puis, quand ils rentraient au soir, il y avait encore un petit verre de goutte sous la fenêtre. Mais pratiquement, vous imaginez un petit verre de goutte avec un gars qui a dépensé toute son énergie. C'était comme si un pipi de chat dans l'océan. C'était pas, il ne buvait pas une bouteille de goutte. C'est clair que ça lui redonnait un petit peu d'allant, simplement. N'avait pas la distraction de la télévision ou d'Internet, et on cherche toujours un petit peu d'évasion. Mais dans ce village où il y avait des centaines et des centaines de personnes qui travaillaient ainsi, il faut savoir qu'il y avait déjà eu deux carnages. Les troupes révolutionnaires françaises avaient déjà brûlé le village entièrement, 2-3 ans après la Révolution. Et puis ensuite, en 14, ça y est, c'est les Allemands qui passent, c'est les autres. Et zoom, boum, on tue tous les hommes et les garçons et on brûle tout. C'est un village traumatisé. Un village traumatisé comme ça, tout d'un coup, a un prêtre comme ça, comme un éléphant dans la porcelaine, ça n'est pas évident. Ça peut être un pasteur, un des durs aussi, dans certaines régions. Alors pratiquement, qui se trompe dans les paroles qu'il doit dire. Et pratiquement, ce qui se passe, c'est que le village a été divisé. Alors, il y avait quasiment les diaboliques et les saints. Un petit peu comme Don Camillo et Pépone. Vous voyez le bazar des films de Don Camillo et Pépone. Donc, on a un manichéisme social. On a créé un fossé. D'où l'apparition dans la tête de certains, la qui étaient devenus favorables au communisme et au socialisme, d'autres au mouvement de droite, etc. Et puis, pratiquement, un jour de procession, il y avait deux ponts, deux arches dans le village, hein, le chemin de fer passé dans le village, et ceux qui étaient contre, ceux qui avaient été frustrés, jugés, étaient au-dessus du pont, sur les rails, et ils avaient pris des cendres de feu. Et en bas passait le dimanche, le prêtre avec le dé, hein, quatre hommes qui tiennent un dé avec un beau velours, etc., une croix au-dessus, et des gling-gling de sonnettes, et l'encens et tout. Moi, j'ai connu tout ça encore. Et pratiquement, tout le monde qui chante. Et au moment où ils passent sous du pont, pan, les autres vident toutes les cendres. Là, la guerre, franchement, était dans le village, hein. Il y avait les bouffeurs de curés et puis il y avait ceux qui étaient pour les curés. Jésus-Christ était bien loin du compte. La désobéissance du prêtre à la parole de Dieu a amené la désobéissance des autres. Aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est oublié tout ça. C'est oublié. Si bien que, pour donner un exemple, dans ce village, un médecin qui était catholique, et dans le village de des mauvais, entre guillemets, c'est là qu'il y avait le plus de rouge, plus d'anti, il était en train d'accoucher une femme, s'accouchement, les cloches sonnent, il faisait partie de la chorale à l'église catholique, ben il a abandonné la femme, et est en train d'accoucher, quoi. Parce que la femme était la famille, là, c'était une famille libérale, non pas socialiste, mais le libéralisme de cette époque-là, c'était séparation de l'église et de l'État. Plus d'émission de l'église, du clergé dans les affaires des consciences. Liberté de pensée, si vous voulez. Et beaucoup de libéraux allaient à la messe, mais ils ne voulaient plus de l'émission des pouvoirs cléricaux et des pouvoirs catholiques dans la conscience des gens et dans les intérêts des autres. Bon, pratiquement, ben, il abandonne. Vous voyez une attitude sans miséricorde, sans compassion, pour pouvoir chanter la chorale et être là dans les rangs. Donc, on est loin de la situation de l'obéissance à Dieu. Hein? C'est un christianisme qui s'est dégradé, puisqu'il y a eu les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, les Italiens de l'autre, etc. Donc, on a, sous le nom de Dieu, utilisé des mauvaises pensées, on a conforté le péché. L'Église qui conforte le péché, qui l'amplifie, n'est pas l'Église de Christ. Paul a dit que j'ai été crucifié en Christ. Le crucifié, ça veut dire tuer à la croix. Le péché doit être tué. Le péché doit être tué. Une église de Jésus-Christ, c'est là où le péché, c'est ça l'ennemi. C'est pas les autres. C'est pas les autres. Donc la principale obéissance, c'est le dégoût du péché. La principale obéissance, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de Christ, l'amour de la sainteté. C'est ça la principale obéissance. Et en cela, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. On ne blasphème pas contre l'action de Dieu qui veut agir dans le monde. Ok ? J'ai voulu présenter d'abord qu'est-ce que c'est que l'obéissance dans son ensemble. Maintenant, n'oubliez pas, je vais prendre des versets, ça peut-être choquer, parce qu'on a une mentalité un peu différente, peut-être même choquer plus des femmes que des hommes, mais ce qu'il y a, l'obéissance, qu'est-ce que c'est ? Comment on en parle dans la Bible ? Prenons Hébreux, chapitre 8, verset 10 à 13. Hébreux, chapitre 8. Je vous ai donné une idée d'ensemble de ce qu'est l'obéissance, mais l'obéissance aussi, il y a des versets pour l'expliquer, pour montrer comment la vivre. Parce que, oui, j'obéis à Dieu, et puis, en fait, je suis tellement aveugle sur mon comportement et des tas de choses, que, en fait, j'obéis pas. Ça, c'est un leurre, ça. Et la parole de Dieu est parfois extrêmement précise pour nous dire « Mais ça tu ne dois pas faire, ça tu peux faire, ça tu dois faire. » Vous voyez ? Donc la parole de Dieu, ce n'est pas qu'un large message qu'on connaît comme ça. Non, il faut aller dans le détail, il faut chercher la volonté de Dieu dans la parole avec attention, avec examen. D'où l'idée dans le protestantisme de ce qu'on appelle le libre examen. C'est une idée qui n'est pas dans le catholicisme. Le libre examen, c'est la responsabilité que j'ai de réfléchir et de prendre mes décisions. Ça, c'est tout à fait protestant, ça. Enfin, biblique. Plus que protestant, parce que le protestantisme, aujourd'hui, se corrompt facilement. en ne lisant plus la Bible, en vivant, en faisant des alliances avec l'islam et le catholicisme d'une façon incroyable. Alors, Hébreux chapitre 8, verset 10. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. » Donc, quand, ben, après ces jours-là, on va voir qu'en fin de compte, c'est le sacrifice de Christ. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Donc, vous voyez, le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui a dans sa raison, dans son intelligence, il connaît les lois de Dieu et il y réfléchit, il les pèse, il examine les choses. Il n'est pas ignorant de ce que Dieu veut. Hein? Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. En plus, il y a quelque chose de gravé dans le cœur, donc on ne sait plus ôter. C'est une action de Dieu qui a mis dans mon cœur l'amour de lui obéir, l'amour de faire sa volonté. Et évidemment, ça c'est quelque chose de nouveau. Puisque avec Adam et Ève, nous avons l'amour de la désobéissance. Nous avons l'amour, la vanité, l'amour de soi. Mais le mauvais amour, l'amour malpropre. Pas l'amour propre, l'amour malpropre. Celui qui s'égare et qui se plante. Hein, et qui fait du mal aux autres et à soi-même. Donc je l'écrirai dans leur cœur. Donc le cœur est renouvelé, le cœur est changé pour aimer ce que Dieu demande. Ok ? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, Dieu est en relation avec ces personnes-là. Voilà le peuple de Dieu. Donc, imaginons ce village, ici à 2 kilomètres, avec tout ce que je vous ai raconté, qui aujourd'hui fait d'un village, c'est un village incroyant. Il y a énormément de suicides dans les hommes. Moi, depuis que je suis gosse, il y a bien eu 30-40 suicides, hein, dans ce village à côté. Un village de 2000, un peu plus de 2000 habitants.
Plein de cancers aussi.
Plein de cancers chez les femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal, hein? Et si vous allez là, je vais dans un café ou quoi, tout de suite on me voit arriver, Jésus est schizophrène. On me lance des roquettes. Ni chaud ni froid avec moi, je suis habitué à ça, mais ce qu'il y a, je prie pour eux et j'attends l'occasion favorable de leur dire, mais arrêtez de déconner. Arrêtez de vous égarer. Où est-ce que vous allez ? Vous ne voyez pas le résultat de vos vies ? Alors, pratiquement, c'est un village qui a besoin de restaurer, de connaître le salut. Mais vous vous rendez compte, quand vous aimez le Seigneur, que vous allez là, qu'il y a des murs. Des murs ! Les gens sont emmurés, sont captifs, de, bien sûr du péché reçu par Adam et Ève, mais de ce qui a été semé, par cette dissension avec les paroles mauvaises, maladroites ou intentionnelles du prêtre, cette division. Bon, pratiquement, ce n'est jamais qu'une une façade, hein. Mais chacun reste ce qu'il est. On a une façade, on est bien quand même, hein, à ses propres yeux, on cause avec tout le monde. Quand il y a un match de football ou qu'il y a une fiesta, on sait boire des chopes ensemble, et se taper sur les ventres, et faire la rumba. Mais ça, c'est pas la fraternité, ça. Ça, c'est pas la grande fraternité. Ça ne va pas loin, ce truc-là. Alors, je vous le dis en plus, quand on va dans les hôpitaux de Sartinement ou de Montgaudine, tout près de Namur ou Saint-Luc, c'est ici dans notre région qu'il y a le plus haut taux de consanguinité entre les habitants. Ça veut dire quoi, ça ? Cric-crac, boum. Donc les gens font cric-crac, boum. Même avec donc les gens sont consanguins. Quand ils sont consanguins, vous pensez que les gens ont un esprit convenable ? Il y a quelque chose de déréglé, il y a des esprits impurs sur les gens. Il y a des esprits impurs, nombreux, qui maîtrisent les gens et qui les conduisent encore jusqu'où ? Dans l'abîme. Alors, quand on sait tout ça et qu'on est serviteur du Seigneur, on ne peut faire que prier et souffrir en sachant ça. Et en espérant mieux pour eux. Beaucoup mieux. Alors, ici dans la parole, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est un futur. C'est une volonté de Dieu. 8, 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, donc les péchés faits volontairement, en sachant que c'est mauvais, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc Dieu a le désir d'effacer tout ça et de remettre tout à zéro pour ce village. Maintenant, je pourrais prendre des autres villages. Je connais bien ma région, c'est misérable. Pourtant, Dieu est là, Dieu les aime. S'il ne les aimait pas, je me tirerais vite. Verset 13, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Laissons les œuvres de religion de côté, laissons toutes ces façades, quand les cloches sonnent et tout ça, baptême en enfance, mariage, enterrement. Ah oui, je suis chrétien. Laissons tout ce qui est ancien et allons vers ce qui est nouveau, vers le Seigneur Jésus. C'est clair, l'évangile ne se suffit pas du paraître. Alors, regardons Jean, chapitre 4, verset 34. Dans Jean, chapitre 4. Vous savez bien que c'est le chapitre 4, c'est le récit de la dame, la Samaritaine. Bon, elle a eu 5 maris. Mais alors aujourd'hui, combien de femmes n'en ont pas eu 5, hein? Ou 3? Et d'hommes? La même chose. Hein? C'est devenu... Mais c'est pas pour ça qu'on est heureux. C'est la déglingue. Alors, c'est une femme qui est dans la déglingue et que le Seigneur aime, que le Seigneur, il est là. Il savait qu'elle allait arriver au puits à midi, toute seule, il s'est mis là. Et il a parlé avec elle. Et puis il a été dans un village où c'était la déglingue. Le village où habitait cette femme. Et il n'y a rien de neuf sous le soleil. Dieu manifeste sa miséricorde pour les hommes. Il va au-devant d'eux. Comment libérer un esclave ? En allant briser ses chaînes. Comment libérer un prisonnier? En allant ouvrir la porte de la prison. Eh bien, comment l'humanité peut-elle sortir de son impasse, de son égarement? Quand Dieu vient vers l'humanité, quand Jésus vient vers l'homme. C'est évidemment le sens de la venue de Jésus sur terre. Alors, regardez quel est le fondement de la vie de Jésus. Chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah. Jean 4, 34. Donc, la volonté de Dieu, c'est d'envoyer Jésus, allez, dans la fournaise, là, dans le bazar là-bas sur la planète Terre. Hein, oui. La planète Terre. Oui, dans le bazar, dans la fournaise. Hein, et. Bon, même au risque de se faire tuer, au risque de donner sa vie, de ne pas être compris, vous voyez, ce qui a été le cas, au risque d'être refusé. Mais, il est clair que Jésus a laissé sa parole à tous ceux qui l'ont aimé et qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui l'aiment. Le Saint-Esprit est capable de renouveler la vie des hommes. Et ça, c'est le credo de la vraie Église de Jésus-Christ. La parole a été laissée par Dieu, par le Christ, aux hommes. C'est son l'héritage qui est donné. Et la parole, lorsqu'elle est lue, on cherche dedans, le Saint-Esprit est donné pour avoir une nouvelle vie et sortir de la prison. Le diamant sort de la pierre, de la gangue. Et un être nouveau qui n'est plus prisonnier, il est affranchi du péché. Il est enfant de Dieu. Il va pouvoir disposer de son libre examen pour choisir le bien et refuser le mal. Il va pouvoir examiner les Écritures et faire aller son intelligence, qui avant était ténébreuse et enchaînée. Ça, c'est des cadeaux formidables de Dieu. C'est des cadeaux dus à l'obéissance de Jésus, venu sur terre. Si lui n'avait pas obéi, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Il vaut mieux pas se réveiller. Prenons la première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, toute la région de Turquie, hein, de l'Asie mineure. Pierre. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, qui est un pécheur, qui est un rebelle. Pierre, c'est un fonceur, un rebelle. Il ne sait jamais faire. Le Seigneur a eu une fil à retordre avec lui. Et le diable pouvait essayer de le coincer, Pierre. Plusieurs fois, il l'a eu. C'est vraiment l'image de nous ici, hein, je trouve, moi, dans la région ici. L'apôtre Pierre. Alors, pratiquement, élu selon la préscience de Dieu. Donc Dieu savait d'avance qu'il allait le sauver, qu'il voulait le sauver, et qu'il allait envoyer Jésus vers lui. Dans tous les moindres détails, il savait. Comme pour la femme samaritaine. Comprenez? Comme pour Dieu connaît tout dans les détails. Alors, cette préscience, cette science infinie qui nous précède, qui est avant nous, qui est avant notre existence, qui est avant notre intelligence, qui est la source de notre intelligence, cette science de Dieu est infinie et Dieu a choisi les hommes pour en faire ses enfants, malgré la force du péché qui les tient esclaves et loin de Dieu. Alors, comment? Par la sanctification de l'Esprit Saint. C'est ce que je venais de vous dire. Jésus nous a laissé sa parole, et par la parole, le Saint-Esprit peut nous sanctifier, nous rendre différents. C'est ce que je viens de vous dire. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'il devienne obéissant, obéir à Dieu. Comme on l'a vu dans Hébreux, c'est inscrit dans notre cœur. Nous aimons obéir. Un enfant de Dieu aime obéir à Dieu. Et l'obéissance chez un enfant de Dieu, on ne traîne pas des boulets. Elle est prompte. Elle est franche. Elle est honnête. Elle est pure. Elle est entière. Et sans regret. Vous savez, quand des parents ont un enfant qui les aime, un enfant qui obéit facilement, quel bonheur pour les enfants, pour les parents et pour l'enfant. Quel bonheur! C'est une vie agréable, facile. C'est ça que Dieu veut avec nous. Pas plus compliqué que ça. Deviennent obéissants, donc ce qu'on ne l'était pas, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc tout ce qui a coulé comme sang à la croix nous était destiné. Nous était destiné et devait tomber sur nous pour nous purifier. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc vous voyez que Pierre a bien compris. La grâce, la marque de Dieu dans nos vies et la paix ne sont que le fruit de cette sanctification par l'Esprit Saint. Donc, le fruit de l'obéissance, c'est la paix et la multiplication de la grâce. C'est pour ça que je vous dis que l'obéissance est extrêmement importante aux lois divines. Or, nous sommes dans une culture de désobéissance. Et nous pensons très bien, c'est très bon que je ne fasse pas comme les autres, c'est très bon que je ne fasse pas comme il m'a demandé, très bon, je n'en ferai qu'à ma tête. Ben, si je réfléchis bien, depuis que j'en fais à ma tête, je me suis déjà cassé souvent le nez. Hein? Il y en a des dégâts. Moi j'ai compris ça un jour en tombant, j'avais lu l'évangile, mais Lermontov, un poète russe, je lis, « Et toi qui cherches la paix dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. » Toi qui cherches la paix dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. Bon, là ça c'était... Vous savez, des fois on lit d'autres choses qui vont en même temps avec la parole de Dieu. Eh bien ce jour-là, je me dis, c'est bon, parce que... Moi aussi, hein, comme tout le monde, tête de lard. Alors, deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. Verset 17. C'est en parlant de Jésus. Pierre dit ceci en parlant de Jésus. Jésus manifesté en gloire à la résurrection, manifesté en gloire sur le mont Hermon, le mont Tabor aussi. Voilà. Il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Jésus, dans l'obéissance qu'il a à son Père, reçoit une approbation, une confirmation de la part de Dieu, et reçoit une gloire. Il y a une gloire qui est dévoilée aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Si vous avez l'amour de Dieu et que vous avez l'obéissance envers Dieu, l'obéissance à ses principes bibliques, il y a une gloire sur vous. Vous ne cherchez pas à savoir où elle est. Il y a une gloire sur vous. Il y a une gloire. Il y a un honneur qui vous est donné. Les amis, combien de choses dans la vie, dans notre société, nous bafouent. On est des numéros. On n'a pas grand-chose à faire pour perdre son travail maintenant. On a vite perdu sa dignité, quand on n'a plus d'argent, rien du tout. Qu'on n'a plus de logement, etc. Et pour Dieu, on a un honneur. Pour Dieu, on a une reconnaissance. Dans le chemin de l'obéissance, comme Jésus, nous recevons honneur et gloire. Immortalité. C'est mis clairement dans la première épître aux Romains. Regardons. Cet honneur et cette gloire sont nécessaires à notre bonheur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement notre statut réel qui a été perdu depuis le péché d'Adam et Ève et que nous retrouvons par grâce. Par grâce. Alors, Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, donc de Dieu, de sa patience, de sa bienveillance envers toi, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, donc le jour de Jésus, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, donc c'est l'obéissance, bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous avons un droit légitime de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous l'avons. C'est inscrit dans notre cœur. Dans Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 9, il est mis que Dieu a imprimé dans notre cœur le besoin d'éternité, les amis. Un désir d'éternité. Donc, c'est vital pour nous. C'est essentiel. C'est notre vraie condition. Donc, quand on se roule dans la boue et dans le péché, on va dans le contraire. Et on s'étonne qu'on pète les plombs et qu'on a besoin de psychiatres, de psychologues, etc., de médicaments, ou d'une bonne drogue, ou de fumer, de boire, etc., pour oublier qu'on a perdu son honneur, sa dignité. On la cherche où ? Dans un brouillard épais qu'on ne la trouve jamais. Mais ici, il est mis, réservant la vie éternelle, verset 7, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce que c'est donné après la mort ? Quand M. le curé a mis l'eau bénite et fait l'encens et qu'on paye des messes ? Non ! C'est donné à celui tout de suite qui croit en Jésus et qui l'aime et qui lui obéit. Nous recevons la vie éternelle dès que nous croyons en Jésus et que nous aimons lui obéir du fond de notre cœur. Et la foi qui persévère, parce qu'il faut montrer de l'adhésion réelle à Jésus, alors à ce moment-là, nous découvrons l'honneur, la gloire et l'immortalité qui nous étaient réservées depuis toujours. Mais pour les autres qui refusent, irritation et colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez, le climat des gens qui ne vont pas dans le sens du Seigneur Jésus, irritation, on s'emballe au quart de tour, on s'étripe, on se bouffe le nez, on fait des querelles. Regardez les journaux télévisés en plus, pour les hommes politiques. C'est lamentable. Il n'y a plus de dimension spirituelle. Vous voyez, dans un pays, on ne voit plus que ça. Pas la peine, il faut fermer le bouton. C'est de l'intox. Alors, irritation et colère à ceux qui, par esprit de dispute, ah oui, il n'y a plus que ça, pif, paf, boum, c'est celui qui fera claquer l'autre. Hein? Et regardez bien, hein, si on peut dénoncer, trouver quelque chose, on paye des détectives, on paye des journalistes pour aller trouver la puce qu'il y a chez l'autre, hein, pour l'enfoncer. Si bien que dans 2 mois, il y a des élections, on ne sait plus pour qui on va voter. Ben, c'est clair, hein? Le diable se frotte les mains. Ah, ils ne savent plus où ils en sont. Ben, moi, je vais m'occuper d'eux. Si on ne veut pas le Seigneur, si on ne veut pas la vérité et la sainteté, on aura le diable et son chaos. Hein. Pas compliqué. Et c'est la même chose dans un couple. C'est la même chose dans l'éducation des enfants. C'est la même chose sur la route, quand on conduit l'auto. Hein. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passe. Hein. D'année en année, ça a l'air de plutôt se dégrader que de s'améliorer. Alors, et regardez les talus le long de la route. Si on ne ramassait pas ce qu'on jette, hein, si on ne ramassait pas ce qu'on jette, vous verriez le tableau. On mettrait un cadre comme ça pour ne pas avoir les cochonneries qu'il y a partout. Alors, l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tribulation et angoisse, voilà le programme du diable qu'il a offert à Adam et Ève. Ben, Dieu n'a pas donné ce programme-là à l'homme. Il a donné un programme de paix et de grâce. Vous voyez ? Il y a un fossé entre les deux quand même. Alors quand on refuse Dieu, mais c'est quel Dieu? Ah oui, c'est le Dieu des croisades, je veux bien ça, c'était le diable. Le Dieu du pape, avec 5e puissance mondiale. Le Vatican, ça n'a rien à voir avec le Jésus de Nazareth, ça. Rien du tout. Rien du tout à voir. C'est de l'imposture. Alors, continuons. Dans Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. Le vrai Jésus de Nazareth et le vrai envoyé de Dieu n'ont rien à voir avec ça. Philippiens 2,13. Quelle est la belle œuvre de Dieu en nous ? Quelle est la belle œuvre d'un enfant de Dieu ? Ben, l'œuvre de l'enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Mais comment ça se fait une obéissance, une vraie obéissance ? Parce que franchement, on a été déformé. On a reçu un héritage de grand-père, de grand-mère, de papy, etc. On a eu des influences, donc on a poussé de travers. Oui. Eh bien, c'est simplement par l'action de Dieu en nous qu'on peut repousser droit. Et Philippiens 2, 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu. Alors, je vais juste prendre un peu avant pour que vous compreniez tout le message au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ah, tiens. Il faut regarder comment était Jésus. Il faut regarder son comportement, son état d'âme et tout. Et il faut aimer Jésus pour apprécier tout ce qu'il était et pour avoir envie de le suivre. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. À Dieu l'orgueil. Il ne veut pas s'élever. Le principe du Fils de Dieu, c'est de s'abaisser. Il fait tout le contraire de l'instinct humain. Il fait tout le contraire de tout ce que les hommes cherchent. À s'élever, à s'affirmer. Besoin de puissance dans les couples. C'est ça qui tue les couples. Je t'aime, mon chéri. Et puis au bout d'un certain temps, chacun n'en fait qu'à sa tête. Et c'est celui qui cédera à l'autre, devant l'autre. Il y en a toujours un, dominant, dominé. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu dans le couple. C'est le couple qui a vie dans les sentiments semblables à ceux de Jésus. Et c'est la règle, c'est l'humilité, c'est pas la vanité personnelle. Alors, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. D'où l'autre, c'est esclave, hein, en devenant semblable aux hommes. Donc, il s'est donné la condition d'un mandai, d'un gars dans la condition la plus petite. Et il y en a plein, hein, sur la terre. Vous savez qu'actuellement, ça redouble. Maintenant, quand quelqu'un perd un boulot en Allemagne, il se présente à l'Office national de l'emploi, il a le droit de refuser une fois son boulot. Une fois. La deuxième fois, il perd le... Vous savez combien il a de chômage ? 400. Pendant 6 mois, c'est tout. Et puis, il y a beaucoup de boulot à 400 euros maintenant, 500, entre 400 et 800. Et s'il refuse, il n'y a plus rien. Vous imaginez ? Voilà la condition du doulos, du serviteur, de l'esclave. Jésus a choisi. Alors, vous comprenez pourquoi il a travaillé 30 ans de ses mains ? Pour nous montrer qu'il connaissait notre situation. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Mais si c'est comme ça, c'est à cause du péché, hein. C'est pas à cause de Dieu. Hein. Parce que tous les ingénieurs agronomes, tous les experts sur la Terre disent que si on voulait répartir les richesses et le faire convenablement, tout de suite, on nourrit 13 milliards. Et si on arrête de manger de la viande, qu'on ne fait plus que de l'horticulture et de la culture bio, on peut nourrir 40 milliards. Et pourquoi alors ? Parce que sur une planète de 7 milliards, il y en a 3 ou 4 qui claquent, qui meurent de faim. C'est pas Dieu, hein. C'est l'orgueil humain qui a amené ça. Quand j'étais prêtre d'ouvrier, je votais communiste. Et puis après, je me suis dit communiste, quand j'apprenais ce qu'ils faisaient en Russie, j'ai voté socialiste longtemps. Et puis après coup, le patron était toujours un petit peu l'ennemi, hein. L'ennemi, hein. La bête à abattre. Et tout compte fait, quand je revivais avec les autres à l'usine, je me rendais compte qu'il y en avait qui étaient pires que le patron. Mais pire, s'ils avaient été patrons, ils auraient fait claquer tous les autres. Donc, ce n'est pas le problème du patron ou de l'ouvrier, c'est le problème du péché. Quand Karl Marx a prêché partout pour semer la cisanie et détruire le judaïsme et le christianisme, et qu'il a dit l'opium du peuple, c'est la religion, 70 années de communisme en Russie et autre part, dans d'autres pays, où il n'y avait plus de religion. On a appliqué les principes de Karl Marx. Est-ce que ça a été mieux ? Il y a eu des puissants, il y a eu des tortures, il y a eu des génocides, il y a eu de tout. Il y a eu de tout ! Staline a massacré 15 millions de personnes de son pays, dans les stalaks et tout ça, tous ces trucs-là. En Russie, moi j'ai rencontré des chrétiens qui avaient été prisonniers à l'époque du communisme. C'était des natures fort résistantes, mais ils ont perdu énormément d'amis chrétiens, là. Ils travaillaient à moins 40, moins 60 dehors. Ils posaient des billes de chemin de fer. Chaque bille de chemin de fer posée pour le communisme. Ils avaient pris tous les chrétiens d'Ukraine. Hein. 6 morts par traverse posée. Chaque traverse posée pour faire le chemin de fer. 6 morts. Ça, c'est le grand communisme. Le grand amour des autres. Alors, les amis, il n'y a pas d'homme qui aime réellement son prochain et qui est capable de faire la justice et la sainteté dans sa vie sans suivre le Fils de Dieu. Vite, vite, quand il a séduit les autres, qu'il a fait une belle doctrine, hein, comme le communisme ou d'autres, vite après, il prend le pouvoir et il se sert d'abord le premier. Et il écrase celui qui refuse. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. Alors, prenons Philippiens 2. Jésus, verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quel genou doit fléchir ? Celui-là ? Ça ? Le genou-là ? On sait bien qu'il va fléchir, hein ? Ça finit toujours mal un jour. Mais ce qu'il y a, c'est pas ça. C'est le besoin d'orgueil, de puissance, de valorisation. C'est cette insurrection qui est en moi, cette rébellion, c'est ça qui doit plier. Crac ! C'est ça. Et verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et vous voyez, ce Jésus de Nazareth est venu agir pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment dans leur cœur, dans leur vie. Verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Il faut obéir promptement et simplement au Seigneur. Mes amis, si vous voulez que votre vie réussisse, si vous voulez les grands projets d'une vie, c'est souvent la profession et le couple. Vous voulez réussir quelque chose, notamment ces deux-là. L'humilité. L'humilité permet de réussir. L'orgueil amène toujours de grandes baffes, tôt ou tard. L'humilité comme Jésus. Regardons Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens. Je viens souvent ici dans cet endroit pour prier. Et c'est ce qui me préoccupe le plus, ce sont les couples, les familles. Pourquoi est-ce que vous avez actuellement une classe politique déchirée, qui se dénonce, qui se coince, qui s'habilite, hein, qui prend tous les moyens de descendre en flamme les autres, hein, comme une bataille d'avions dans le ciel, en guerre de 40-45. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça dans leur couple. Tous ces hommes politiques, toutes ces femmes politiques sont comme ça dans leur couple. La France est déchirée dans sa famille, dans ses couples. La France, la Belgique, l'Europe. Parce qu'on a comme principe que la fidélité, c'est passé. La pureté, c'est passé. La chasteté, c'est fini. La pureté du cœur, c'est fini. Le fantasme est élevé sur le podium. Mais ça existait déjà dans l'Empire romain. L'Empire romain, vous savez, le culte de Dionysos, c'est un bouc sur un trône, avec son phallus. Et puis il y avait des orgies. Il y avait des hommes qui mettaient des têtes de bouc sur eux. Des orgies avec les hommes, les femmes, avec hommes, femmes. L'Empire romain, l'Empire grec. Eh bien, on a fait le plus grand tunnel à travers le Simplon, vers l'Italie, entre la France et le Saint-Gothard, le tunnel pour chemin de fer, pas pour l'auto. Et la fête qui a été faite, organisée par des responsables français et italiens, c'était avec la tête du bouc de Dionysos. Toute cette fête-là, j'ai regardé sur... C'est quoi ça? C'est ça l'Europe? Dionysos? Ben regardez bien, les couples sont en miettes, les gosses sont cassés dans tous les sens, ils ne savent plus où ils en sont, et regardez bien, vous avez l'image. De la base se retrouve à la tête. Nous avons les hommes politiques que nous méritons. Ils sont comme nous. Ils sont fidèles en rien, ils sont propres en rien. Ils sont purs en rien, il n'y a aucune place pour l'humilité et pour la pureté et la vérité. C'est à la base de la population qu'il faut recommencer tout le travail. C'est bien pour ça qu'il faut évangéliser. Le vrai évangile, hein. Pas amener une religion, il y en a déjà eu assez, on a assez menti avec tout ça. Le vrai évangile, pour que les cœurs changent, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. J'étais une fois assis, j'étais au fond de l'église, un mariage évangélique, il y avait les mariés, et moi j'avais rien à faire, c'était dans une autre église. Je voyais les femmes qui bondissaient en entendant ça, les femmes qui n'étaient pas chrétiennes, hein, ou même des chrétiennes. Purée, ils étaient prêts à étrangler le pasteur. Car le mari est le chef de la femme. Oh là, c'est qu'au pire. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Donc ça, c'est imbuvable à l'heure actuelle. Pourtant, je vais vous dire, on va continuer. Pourtant, hein. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah ben là... Il faut vraiment que le Saint-Esprit agisse puissamment, hein, parce que tout ce qui s'est passé depuis que la petite fille a grandi à l'école, Elle a vu des garçons à côté. Elle a eu des points. Parfois meilleurs que les garçons. Elle travaillait plus que les garçons, souvent les filles. Et puis après, hop, le diplôme, le bac et tout. Puis au boulot. Ben, on voit toutes les conneries des hommes. Alors on se dit, ben si c'est que ça, c'est que ça les hommes. Mais n'empêche, on les veut bien au lit, mais ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas équilibrés, ils ne sont pas adultes. On ne les veut pas. On les a bien voulu au lit, et puis on change et on ne trouve jamais. Pourquoi ? Parce que tous les principes divins sont jetés à la poubelle. Une femme qui veut réussir et qui aime le Christ, qui a donné sa vie au Christ, va choisir un homme, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il fait bien sa houli, pas parce qu'il a des sous, et une belle voiture, une belle baraque, parce qu'il est attaché profondément au Seigneur. Et cet homme a un maître. Ce maître, c'est le Seigneur Jésus. Ce Seigneur Jésus change son cœur. C'est un homme qui sait pardonner. C'est un homme qui sait avoir des prévenances pour sa femme. C'est un homme qui sait avoir de la douceur et pas de la violence. C'est un homme qui sait faire plaisir à sa femme et qui ne dit pas coucouche panier. Il va respecter sa femme et c'est l'amour physique sera toujours la conséquence de l'amour du cœur, de l'amour spirituel chez cet homme et chez cette femme. Pas l'inverse. L'amour mécanique sans l'amour du cœur, l'amour spirituel, n'amène que l'enfer. Le diable s'en mêle et on devient de pire en pire tous les jours. On est lié et on devient méchant et menteur, susceptible, querelleur et tout. Donc, il faut un principe de soumission de l'homme à Jésus-Christ. Il doit avoir un maître, il ne doit pas être son propre maître. Et ses passions pour maître et faire de sa femme son paillasson, il a dominé. Non, il est dominé, il est conduit par le Seigneur. Et la femme doit pouvoir choisir, sans se tromper. Celui-là, je sais qu'il sera un bon mari parce que le Seigneur est dans sa vie. Mais une femme ne doit pas choisir un homme parce qu'elle a peur d'être toute seule. Parce qu'elle a peur, elle a besoin de faire comme les autres femmes. Elle a besoin d'avoir un toit, etc. Tout ça n'amènera que des désordres, des complications qui la feront pleurer amèrement. Regardons. De même que l'Église est soumise à Christ. Donc c'est pas n'importe quelle Église. Hein. C'est pas les fausses Églises. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari doit être capable de donner sa vie pour sa femme. Mon grand-père qui habitait ici, quand la ligne Maginot a tiré et qu'ils sont partis, avec un chariot, toute la famille. L'autre chariot était prendre les vieux, les malades, que les beaucoup avaient laissés. Ils sont passés. Quand ils arrivaient de l'autre côté de la frontière de la ligne Maginot, les avions allemands... Tous les hommes abandonnés couraient dans les buissons à 200-300 mètres, laissaient les femmes et les gosses là. Ça, c'est pas des maris habités de Christ. Ça, c'est pas des maris habités de Christ. Moi, je serais une femme, j'ai pas un mari pareil. Vous avez compris ? Je préfère rester toute seule. Ils se cavalaient tous. C'est mon grand-père qui l'a dit. Mon grand-père s'est jamais cavalé et il n'a jamais appris à ses enfants le faire. L'Église est soumise à Christ et les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, si le Christ passait des heures à prier dans la montagne, qu'il passait du temps avec son Père des cieux, le mari doit prier. Ah oui, mais ma femme est au lit, elle dort. Ben oui, mais si tu l'aimes vraiment, va prier pour elle. Si tu l'aimes vraiment, prie pour elle. Ben, si elle a insisté pour que tu viennes, vas-y. Mais le lendemain, va prier pour elle. Tu seras moins stupide avec elle le lendemain. Tu auras tu auras plus d'amour pour elle, et tu verras, elle en aura plus pour toi. Parce que moi, j'interviendrai, j'agirai. Et vous arriverez à discuter sans vous disputer. Parce que moi, je mettrai ma grâce et ma paix sur vous. Vous arriverez à vivre sans vous bouffer le nez. Sans faire lit à part. Sans parler de divorce à tout bout de champ. Sans faire tous les comptes à part. En se grattant la puce pour savoir qui a dépensé un euro, l'autre pas. Dans le Seigneur, l'union se fait. Hors du Seigneur, la désunion est comme un incendie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Donc, le mari n'a qu'un souhait, c'est que sa femme soit sainte comme le Seigneur. Et d'être avec elle pour l'éternité. C'est ça que cherche au fin de compte. Il avait du mal à le dire à l'hôpital. Cherche à ce souhait-là maintenant. Il finit sa vie, et avant il a un peu laissé ça de côté et tout. Et là maintenant il se rend compte que c'est urgent, c'est important. Vous comprenez pour lui. Alors, pourquoi ? Parce que Dieu est capable de faire de cette femme, regardez au verset 27, au verset 26, de l'avoir purifiée. Il est capable, au verset 27, de la rendre glorieuse, sans tache ni ride, sainte et répréhensible. Vous savez que quand l'œuvre de Dieu se fait dans une femme ou un homme, on finit par ne plus trouver de motif de lui en vouloir. On finit par ne plus trouver de motif de lui faire des reproches. Irrépréhensible. On finit par apprécier tous les bons côtés de la personne. On ne voit même plus les côtés négatifs. On vit de manière irrépréhensible. C'est-à-dire, on ne peut plus, on n'appréhende plus l'autre sur « t'as pas fait ça, c'est tchik-tchak. Hein ? Ou t'es pas comme si. Ou j'aurais voulu que tu sois comme ça. » Pourquoi ? Parce qu'il y a une transformation dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous avez vu ça dans l'épître de Pierre. Mais ça, c'est l'œuvre de Christ. L'obéissance est pénible. C'est difficile, il faut renoncer à soi. Mais les fruits, la récolte est grande. La récolte est grande. Celui qui veut une petite récolte, ben, qu'il vive comme il veut. Hein. Suivant ses pulsions et ses moi-jeux. Il aura une petite récolte. Il mourra avec une tête, une sale tête, je vous le dis. Prenons la première épître de Timothée, chapitre 2. Je pense que l'histoire du couple dont je parle aujourd'hui et de la famille sont à la base de la société. Si on en est là, quand on voit comment ça se prépare les élections, c'est parce que c'est l'image de ce qui se passe dans toutes les maisons. Tous ces couples-là, multipliés par ça, ça donne ça. Voilà nos responsables, ils sont comme nous. Un jour, un vieux monsieur m'avait dit, mais il y a très longtemps, il y a bien 40 ans, on a les hommes politiques qu'on mérite. J'ai jamais oublié. Ben, finalement, celui-là, il avait réfléchi, il avait fait le tour du problème. Chapitre 2, verset 9. Première à Timothée, chapitre 2, verset 9. Alors là, c'est de nouveau un peu provoquant. Dans un langage face à des femmes émancipées, etc. Mais que les hommes fassent bien attention, le message est valable pour eux aussi. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, donc pas de la provocation hein, pour allumer tous les hommes, hein, ni de perles, elle ne se pare pas de tresses. Donc, en général, ce qui se passait à cette époque-là, les longs cheveux, les liaient. Lorsqu'on allait en réunion, en manifestation, en tresses, on mettait des broches de l'or dedans, etc. Ni d'or, de perles et d'habits somptueux. Mais qu'elle se pare de bonnes actions, comme il convient à des femmes qui ont fait profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça veut dire quoi ? L'instruction de quoi ? Ça peut être fait dans une réunion de femmes par une femme. Si une femme, par exemple, je vois nos trois filles font l'institut, si elles donnent des instructions à un groupe de femmes et que toutes les femmes se rebellent à tout bout de champ, on n'arrive pas à donner une instruction. Vous voyez ? La discutaille. C'est ça. C'est pas forcément vis-à-vis de l'homme. C'est vis-à-vis de la parole de Dieu. c'est un cœur qui accepte la parole de Dieu. C'est ça qui est mis. Hein? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et c'est valable pour les hommes, hein, les amis. Hein? Parce que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, lorsqu'il y a une instruction spirituelle, biblique, hein, il est demandé de se taire. Mais moi, je pense que c'est autant pour l'homme que pour la femme. Je pense que, peut-être, je m'imagine qu'à cette époque-là, il y a eu dans certaines régions de Grèce, c'est le climat méditerranéen, le sang est chaud, hein, là-bas. Alors, vas-y, Nénès, hein, je connais pas mal d'Italiennes, de Siciliennes et de gens de Portugaises. Alors, ça, quand ça pète, ça pète. Alors, pratiquement, c'est le tempérament. Bon, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le tempérament bouillant des femmes là-bas? En tout cas, Paul dit de faire silence. Moi, je ne pense pas, parce qu'il y en a qui font de ces versets-là une tarte à la crème pour dire que les femmes doivent fermer le bec tout le temps. J'avais une réunion ici un jour avec un ami pasteur, et l'église m'avait demandé de prendre cette brave femme avec moi. Oui, parce que c'est des sujets importants. Et quand elle était venue, etc., ça ne s'est pas bien passé du tout. J'étais mitraillé à bout pourtant, soupçonné de tas de choses. Et puis, bon, j'ai laissé passer tout ça. Et puis, à la fin, ce monsieur remercie Annette parce qu'elle avait été silencieuse, elle avait été une femme modèle, une sainte femme qui savait se taire dans l'assemblée. Eh bien, on n'était pas dans une assemblée, on était dans une réunion à 3-4, c'était pas une assemblée. Donc cet homme profitait de la Bible pour écraser madame. Je ne suis pas d'accord. On ne fait pas de la Bible un instrument pour museler les femmes. Et les dictatures. Hein? Il y a quand même du bon sens. Quand Jésus a aimé les femmes, elle parlait. Elle le suivait et elle discutait avec lui. Il parlait. Et il a prié pour elles et il les aimait. Vraiment, Jésus nous demande de les aimer comme lui. Et pas comme des machos. Donc, ne faisons pas dire au texte des histoires invraisemblables. Tant pis s'il y a des copains évangéliques à moi qui ne sont pas d'accord, mais je le pense ainsi. Je regarde à ce que Jésus était avec des femmes pour savoir ce que je dois être avec des femmes. En Tite, chapitre 2. Regardez Tite, chapitre 2, puis on va avoir fini. Chapitre 2, Tite, verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Ben, ma foi, vous voyez ce que c'est le programme de quelqu'un qui prend de l'âge. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Vous avez vu pour les femmes âgées? Donc il y en avait qui prenaient la bouteille. Hein? Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, donc elles doivent pouvoir parler du Seigneur et de la parole de Dieu, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Oh! Donc les dames âgées, hein, on en a une ici, eh bien, elle doit être un modèle pour les autres femmes qui sont ici. Pourquoi? Elle doit leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Pourquoi? Ben, ça ne doit pas être facile, à mon avis. C'est que ça ne doit pas être facile. Parce que les maris ont des défauts. Hein. Eh oui! Et quand elles se rencontrent, les femmes, ben, elles en parlent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, madame, ici, on va dire, allez, prie pour ton mari. Allez, on va prier pour ton mari. Allez, on va demander à Dieu de le changer. Hein? Bon, d'ailleurs, on a un beau film qu'on a regardé dans la semaine en famille. On vous le passera le week-end du 1er mai sur une femme, justement, qui avait de gros problèmes avec son mari, deux femmes, et qui ont prié pour eux. Et c'est un très beau film, hein? C'est magnifique. Plein de leçons pour les hommes comme pour les femmes. Mais imaginez, elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, ça n'allait pas tout rond, c'est clair. Même chez des femmes et des jeunes maris, des jeunes femmes chrétiens. C'est pas si simple que ça de s'aimer. C'était si simple que ça, Jésus n'avait pas besoin de venir. Alors, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, donc de la maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc la soumission au mari, c'est pas l'extinction de la personnalité de la femme. L'épanouissement de la personnalité de la femme, c'est d'avoir de la patience, de l'intercession pour son mari, et de la compassion pour son mari, de la patience, en sachant que Dieu va faire quelque chose pour changer son mari. C'est ça, un couple chrétien. Parce que si elle ne croit plus que Dieu va faire quelque chose pour son mari, c'est foutu. Elle va se heurter un mur, ça va devenir la bagarre. Mais si elle sait que Dieu va agir, et que Dieu répond à ses prières, elle va faire confiance à Dieu, et elle va être une femme de paix envers son mari. Et le mari fera de même, s'il vous plaît. Le mari fera de même. Alors voilà un petit peu, l'obéissance n'est pas facile. Je vous dis que si ça n'est pas mis en pratique, le reste de la société se déglingue, y compris jusqu'au haut niveau, en politique et dans tout. C'est la base. Nous avons besoin d'apprendre à obéir, et le Seigneur Jésus vient à notre secours pour le faire. Car notre nature est mauvaise. Mais lui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, veut bien changer le léopard, qui soit mâle ou femelle, en brebis. En brebis, en enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.